Couplez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Vous savez que 3 scrutins sont prévus, les provinciales, les législatives et la présidentielle, censée permettre une alternance politique. Et nous sommes à tout juste 6 mois de ces élections cruciales. Et à 6 mois, eh bien, il y a plusieurs sujets qui font polémique. On va en parler ensemble dans une trentaine de minutes. On va parler évidemment du silence du président Kabila. Sera-t-il candidat à sa propre succession comme le craignent ses détracteurs? Nous parlerons forcément du fichier électoral dont la viabilité est remise en cause par la francophonie et nous lancerons le débat aussi sur ces fameuses machines à voter électroniques, des machines qualifiées par l'opposition de machines à voler, à tricher. Alors que pensez-vous de l'organisation de ces scrutins? Rejoignez-nous 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à nous envoyer vos réactions sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI. Nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants vous répondent pour mieux comprendre l'actualité. Et nous allons, pour commencer, revenir sur l'attentat qui a visé samedi dernier le président du Zimbabwe. Bonjour Mamoudou.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à tous les fidèles auditeurs de RFI, également à ceux de dans mon village natal à Samanta, à Mali Embéré.
Très bien, ça se trouve en Guinée, j'imagine, puisque vous nous appelez de Conakry. Quelles sont vos questions, Mamadou?
Au Zimbabwe, une explosion a fait 49 blessés, y compris des officiers et les membres du gouvernement, lors d'un meeting du président Emmerson Mnangagwa à Bulawayo. Quelles sont les causes potentielles de cette attaque? Et dans quelle mesure que cet incident pourrait avoir sur ces élections qui aura lieu dans un mois?
Effectivement, les premières élections de l'ère post-Mugabe. Bonjour Michel Arsenault.
Bonjour Juan, bonjour Mamoudou.
Journaliste au service Afrique de RFI, je précise que le bilan s'est alourdi puisque hier 2 personnes sont décédées des suites de leurs blessures. Alors Mamoudou le rappelait à l'instant, une bombe a explosé donc samedi après-midi, juste après le discours du président Mnangagwa devant des milliers de personnes rassemblées dans un stade, de la deuxième plus grande ville du pays. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée, d'où cette question de notre auditeur, question pertinente, quelles pourraient être donc les causes potentielles de cet attentat?
Le mot important dans la question, c'est potentiel. Et la réponse, c'est on n'en sait rien. L'enquête le dira peut-être un jour. Mais pour l'instant, le président Mnangagwa fait comme s'il savait déjà. Il dit qu'il sait qui sont ses ennemis, donc là je le cite. Son ministre de l'Agriculture, Parents Shiri, un ancien maréchal, dit que ces gens-là, qu'il qualifie de terroristes, jouent avec le feu. Encore là, il y a des guillemets. Et cette mise en garde, Juan, ne devrait pas être prise à la légère, parce que Parents Shiri dirigeait la 5e brigade de l'armée zimbabwéenne, c'était le commandant de l'armée de l'air, pendant les opérations de répression au Matabeleland, il y a 30 ans. Donc, ce n'est pas un tendre. Donc, les déclarations officielles et publiques porte beaucoup de Zimbabwéens à croire que cet attentat est en réalité un règlement de compte au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et peut-être aussi au sein de l'armée, parce que les militaires reflètent ni plus ni moins les différentes factions au sein du parti. Et on sait que certains hauts gradés n'ont toujours pas digéré le renversement de Robert Mugabe en octobre.
Donc on n'exclut pas la piste des partisans de l'ancien président?
Non. D'autant plus qu'on sait, ou on pense, l'enquête le dira peut-être, que l'engin explosif utilisé fait partie de l'arsenal militaire zimbabwéen. Je parle au conditionnel parce que les photos qui circulent sur les réseaux sociaux n'ont pas encore été identifiées. Mais il y a aussi une autre piste, et c'est l'éventuelle vengeance de quelqu'un qui n'aurait pas pardonné au président Mnangagwa son rôle dans les massacres au Matabeleland contre les partisans de Joshua Nkomo, le dirigeant nationaliste, comme on disait à l'époque, dans les années 80. Des dizaines de milliers de personnes avaient été tuées dans le pays Ndebele, révélé. On parle même de génocide, Juan.
Alors, le président, en tout cas, lui promet que les auteurs de l'attentat seront traqués et déférés devant la justice. Nous sommes, comme le rappelait Mamoudou, à un mois de ses premières élections post-Mugabe. Quel impact, quelle incidence cet attentat pourrait avoir sur ces scrutins?
Ben, la question de l'état d'urgence est tout de suite posée. Hein. Les journalistes à Harare ont posé la question au président. Il a écarté, il n'en veut pas. Ce qu'il veut, lui, c'est des élections irréprochables. Il veut que les élections présidentielles et législatives du 30 juillet se passent bien, même très bien. Parce qu'il sait bien que son arrivée au pouvoir, un coup d'État quand même, est contestable. Et il est déterminé à organiser un scrutin libre et démocratique. Pour lui, c'est une façon de légitimer son pouvoir. Mais c'est aussi une façon de faire bonne figure sur la scène internationale. Pour lui, à des fins politiques, mais aussi pour les bénéfices de l'économie de son pays, espère-t-il. On sait que l'économie zimbabwéenne est à genoux, pour ne pas dire qu'elle est sur les rotules. Il n'y a pas de chiffres officiels, mais on parle de 85% de taux de chômage, c'est énorme, et des crédits internationaux, des investissements étrangers pourraient faire peser la balance.
Mamoudou, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, monsieur Juan.
Eh bien, on remercie surtout Michel Arsenault, qui
merci.
Était là, présent
merci
ce matin dans ce studio. Il est 10h16 à Paris, 33 9 693 693 70. Nous allons parler de l'économie grecque avec Pauline Glaise du service éco de RFI. Bonjour Pauline.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre, et de répondre à Rodrigue, qui nous appelle d'Abidjan. Il est précisément dans la commune de Youpougon. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 juillet, les partenaires financiers de la Grèce ont validé le dernier plan d'aide de la Grèce, mettant ainsi fin à la mise sous tutelle de la Grèce. Qu'est-ce que cela signifie réellement ?
Alors, Pauline Glaise, après donc 8 ans d'austérité imposée, notamment par l'Union européenne, la Grèce ne sera plus sous la tutelle de Bruxelles. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie?
Mais cela veut dire qu'à partir du 20 août, la Grèce pourra décider seule, ou enfin presque seule, en tout cas de sa politique économique. En fait, depuis 2010, Athènes vit sous perfusion financière du FMI et surtout de la zone euro. Elle a reçu, pour vous faire une idée, en 8 ans, 273 milliards d'euros. Mais il y a eu évidemment des contreparties. Elle a dû mettre en place des centaines de réformes et de mesures d'austérité. Et à partir du 20 août, avec la fin du troisième plan d'aide de la zone euro, Athènes choisira comment atteindre ses objectifs. Elle pourra retourner sur les marchés pour se financer toute seule. Elle empruntera donc sans contrepartie politique, mais avec des taux d'intérêt qui seront supérieurs. En fait, Rodrigue, c'est un peu comme si à un moment donné, votre banque vous imposait de réduire votre train de vie ou de vendre un bien en échange d'un prêt et que vous redeveniez maître de votre budget et de votre patrimoine.
Alors concrètement, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, sur quoi se sont mis d'accord les ministres des Finances de l'Eurogroupe?
Mais ils sont mis d'accord sur un allègement de la dette, ou plutôt un allongement de la dette en fait, parce que la Grèce est autorisée à commencer à rembourser une partie en 2032 plutôt qu'en 2022. Cela veut dire moins de pression à court terme. Donc, et l'objectif, c'est de rassurer les marchés, d'insister à souscrire des obligations grecques. Et puis, une dernière tranche d'aide a été validée en échange de 88 mesures prises récemment. Une aide de 15 milliards d'euros qui servira à rembourser la dette et à faire grossir un matelas de sécurité pour plus de marge de manœuvre.
C'est donc, Pauline Glaise, incontestablement une page qui se tourne pour la Grèce?
Si on veut, disons que plus qu'une page, enfin que la page se tourne, mais que le chapitre n'est pas entièrement refermé, puisque la Grèce restera sous surveillance. Les créanciers veulent s'assurer évidemment que l'économie grecque ne va pas dérailler à nouveau. Athènes s'est donc engagée à un excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire hors remboursement de la dette, de 3,5% du PIB jusqu'en 2022. Et les comptes de la Grèce et la bonne application des réformes seront scrutés régulièrement. Ce programme de surveillance est plus exigeant que celui du Portugal ou de Chypre, mais l'aide est aussi bien plus élevée, 273 milliards contre 70, 78 milliards pour le Portugal, pour vous faire une idée.
Ouais. Et puis, il y a une anecdote quand même qui prête à sourire, mais qui en dit long tout de même. Le Premier ministre grec, il dit cet accord est historique. Et pour le coup, moi, je n'ai pas eu le souvenir de le voir avec une cravate. En revanche, ce jour-là, il avait la cravate.
Oui, parce qu'il avait dit qu'il porterait une cravate le jour où Athènes ne serait plus sous le joug de ses créanciers. Alors, vendredi, pour la forme, il a mis une cravate, mais l'a retirée à la fin de son discours, en assurant que la Grèce avait certes gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc, tout n'est pas encore terminé pour Athènes.
Oui, Rodrigue, vous avez une autre question.
Oui, Juan. Est-ce que les plans d'aide et la mise sous tutelle de la Grèce ont été bénéfiques pour le peuple grec?
Alors, vous le disiez, il y a eu beaucoup de politiques d'austérité mises en place à la demande de l'Union européenne, mais aussi du Fonds monétaire international. Les Grecs ont beaucoup souffert ces 8 dernières années. Au final, quel bilan peut-on dresser, Pauline Glaise?
C'est un bilan assez difficile. Enfin, il est assez difficile de dire si ça a été bénéfique pour la Grèce. Sur le plan strictement comptable, oui, la Grèce va mieux. Un retour de la croissance, plus 1,4% en 2017. Et puis, les analystes tablent sur 2,3% pour l'an prochain. Mais ce sont des chiffres à remettre en perspective. La Grèce revient de très loin. Elle a perdu un quart de sa richesse avec la crise. Pour ce qui est des Grecs, ils auront peut-être du mal à ressentir la vraie sortie de crise annoncée par Emmanuel Macron, puisque les plans d'aide ont eu des conséquences sur le quotidien de la population. Même Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie, a reconnu que certaines mesures avaient été brutales. Et s'il se félicite de la mise en place d'un revenu minimum, avec la crise, les salaires et les retraites ont été réduits d'environ 40%, et de nouvelles coupes dans les retraites sont prévues dans les années à venir.
En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'à partir donc du 20 août, la Grèce ne sera plus sous la tutelle de l'Union européenne, c'est bien ça?
Mais sous surveillance étroite.
Sous surveillance étroite, effectivement. Merci Pauline Glaise d'être venue répondre à Rodrigue qui nous appelait de Yopougon à Abidjan où il est 8h22. Vous continuez à nous appeler, on attend vos questions et on les adore vos questions. On va s'intéresser au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous avez certainement entendu il y a quelques jours sur l'antenne de RFI la décision de l'administration Trump de claquer la porte. Bonjour Fiston.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs d'RFI, à tous les techniciens d'RFI.
Merci de saluer effectivement les techniciens qui font que cette émission puisse être diffusée partout dans le monde. On vous écoute.
Et les États-Unis ont décidé de se retirer du Conseil des droits de l'homme à l'ONU en accusant l'institution de parti pris contre Israël. Quels sont les exemples précis que les États-Unis ont apportés?
Alors, Bertrand Badier est avec nous, il est professeur à Sciences Po Paris, bonjour.
Bonjour.
Alors effectivement, l'administration Trump dénonce l'hypocrisie de cette institution et le parti pris contre Israël. Concrètement, donnez-nous quelques exemples pour essayer de comprendre l'argumentation, notamment de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies.
Alors, vous savez que tout son argumentaire porte sur le fameux point 7. Qu'est-ce que c'est que le point 7? C'est celui qui fait que à chaque ordre du jour du Conseil figure Israël et la dénonciation de la remise en cause des droits fondamentaux par le gouvernement israélien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une réunion, Israël est mécaniquement sur la table et l'argument de l'administration américaine, c'est de dire il y a là parti pris puisque un État parmi les 193 est systématiquement mis en accusation alors que l'autre, les autres ne le sont que conjoncturellement.
Oui, ce que disent les États-Unis, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de recommandations visant Israël que toutes les résolutions confondues contre la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie.
Voilà, c'est-à-dire cette disposition que la majorité de l'Assemblée des Nations Unies et des membres, des 47 membres du Conseil des droits de l'homme avaient pu impliquer, c'était que Israël étant systématiquement mis en cause, bien évidemment, les incriminations portant sur cet État l'emportent sur tous les autres. C'est intéressant comme argumentaire parce que c'est un débat sans fin. De l'autre côté, on accuse les États-Unis de systématiquement soutenir Israël, même lorsqu'Israël vole les droits de l'homme. Donc vous voyez à quel point le débat est politique et qu'en fait, de droits de l'homme, c'est davantage la mise en évidence d'alliances et de connivence que un véritable jugement porté sur les droits de l'homme tels qu'ils s'accomplissent dans le monde.
L'expertise de Bertrand Badier en direct ce matin sur RFI. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à Fiston. Elle était l'envoyée spéciale de RFI aux élections présidentielles et législatives de dimanche en Turquie. Elle est arrivée très tard hier soir, mais ce matin, elle est là pour répondre aux auditeurs de RFI. Bonjour Anissa Al-Jabri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Rousseau, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Des questions donc sur la réélection dès le premier tour de Recep Tayyip Erdogan.
Oui. Le président Tayyip Erdogan a remporté l'élection présidentielle avec 52%, avec une participation de 90%. Malgré certaines irrégularités, comment l'opposant Marouane Michi a accepté les résultats sans introduire un recours?
Alors, c'est une bonne question, Anissa El-Jabri. C'est vrai que on a entendu le parti du principal rival du président Erdogan dénoncer, évoquer des fraudes en tout cas. Et Muharrem İnce, finalement, n'a pas appelé à la contestation des résultats. Il les a même acceptés.
Mais il le dit lui-même, vous l'avez souligné, vous aussi. Hein, 90% de participation sur un peu plus de 56 millions d'électeurs. Il faudrait quand même que les irrégularités atteignent un niveau extrêmement élevé, hein, puisque 1% des voix, c'est quand même 500 000 bulletins fraudés. Donc c'est vrai, hein, il y a eu des irrégularités. L'OSCE l'a souligné. Il y en a même qui pourraient être considérées comme des irrégularités, mais qui ont été légalisées. C'était déjà l'année dernière. C'est-à-dire que certains bulletins, quand ils ne sont même pas tamponnés, peuvent quand même être comptabilisés. Mais c'est difficile à évaluer. Mais en réalité, la question de est-ce que cette élection elle était libre, transparente, juste, hein, telle qu'on l'a qualifiée, elle va au-delà de la question des bulletins. Et ça, Muharrem İnce, quand il a décidé de concourir, il le savait déjà. C'est cette fameuse question d'accès aux médias. Bien tous sûr. Les observateurs, j'ai rencontré sur place, me le disaient, on ne peut pas considérer que l'opinion des Turcs a pu se former correctement. On ne peut même plus considérer qu'on est dans une démocratie, certes imparfaite, mais dans une démocratie. Je vais vous donner des chiffres très simples. Ce sont les chiffres de l'accès aux médias. Couverture télévisée pour Recep Tayyip Erdogan, 180 heures d'audience, son principal opposant 37, les autres.
Ah oui.
Les autres, des miettes. Vous avez entendu parler évidemment du leader du parti pro-kurde, parti de gauche, en tout cas Selahattin Demirtas. Une campagne depuis sa cellule de prison. Je crois qu'il a eu in extremis accès à 10 minutes à la télévision.
Effectivement, le gap est énorme entre le président sortant et son principal rival, et ne parlons pas des autres candidats. Le temps passe très vite, Anissa El-Jabri. Rousseau, vous aviez une dernière question.
Oui, l'alliance entre AKP et les partis nationalistes ont rapporté la majorité au Parlement. Dans quelle mesure cette alliance a permis à Erdogan de gagner ses élections?
Alors,
en fait, ce parti MHP, c'est une vraie question et c'est très troublant. Ce parti, on l'a quasiment pas du tout entendu de la campagne. Il ramasse quand même 11% des voix, c'est énorme. Ça permet aussi de souligner en creux que le parti du président a perdu un petit peu de voix.
Ah, il a perdu, il avait obtenu 49% en 2015.
7%, exactement, au Parlement. En fait, ça permet en creux de souligner une chose très simple. Il y a une déception des électeurs vis-à-vis du parti au pouvoir. Cette déception, elle s'est manifestée pour les législatives, mais il y a un attachement à la personne d'Erdogan et cet attachement, il se manifeste pour la présidentielle. Alors bien entendu, même si Erdogan a maintenant tous les leviers du pouvoir, il est aussi vis-à-vis de cette Assemblée nationale, quelque part dans la main de ce parti ultranationaliste qui lui permet, et seulement si ce parti est là, d'avoir la majorité à l'Assemblée.
Voilà, et qui lui a permis donc d'avoir la majorité à l'Assemblée, qui lui a permis aussi peut-être de... Oui, non, mais c'est ça, d'avoir... Non, mais je mélangeais présidentielle et législative.
Eh bien oui, parce que les deux sont en même temps, et c'est évident, pour tout le monde, c'était un petit peu compliqué de faire la séparation, c'était l'objet d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils avaient été placés ensemble, c'était un calcul stratégique.
Bien réussi. En tout cas, merci beaucoup Anissa El-Jabri d'être venue répondre ce matin à Rousseau. Anissa El-Jabri qui rentre tout juste de Turquie. À suivre dans 10 minutes maintenant, vos réactions sur l'organisation de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Nous sommes à tout juste 6 semaines de ces 3 élections, je vous les rappelle, provinciales, législatives et présidentielles. La présidentielle qui est censée permettre une alternance politique. Et à 6 mois de ces élections, plusieurs sujets font polémique, font débat. La réaction, l'attitude du président Kabila, on attend évidemment avec impatience le démarrage du dépôt des candidatures à la présidentielle. Ce sera dans tout juste un mois. Nous parlerons évidemment de ces fameuses machines à voter, mais aussi du fichier électoral dont la francophonie a émis récemment quelques doutes, ou en tout cas a remis en cause la viabilité. 33 9 693 693 70 et les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.